histoire, c'est une petite fille qui va chez sa grand-mère pour amener à manger et du vin.
Elle croise un loup dans les bois.
Et quand le petit chaperon rouge est arrivé, c'était pas la grand-mère, c'était le loup qui avait mangé la grand-mère.
C'est une histoire connue normalement.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. La peinture est encore fraîche, je suis ravie de vous accueillir. C'est une émission pour les enfants et pour celles et ceux qui l'ont été un jour. Avec des histoires, des histoires, des histoires. L'imaginaire comme pierre angulaire. Nous allons nous pencher chaque semaine sur un grand récit jeunesse. Il y aura des contes, des romans, des albums, des films, des BD. Pour les petits, les moyens et les ados, chaque histoire sera l'occasion d'une rencontre entre des invités venus d'horizons variés. Essayons de lire entre les lignes et posons-nous des tas de questions. Y a-t-il vraiment une morale à chaque histoire? Et si oui, qui la décide? Quelle clé tel ou tel personnage offre-t-il pour grandir? Quel stéréotype véhicule-t-il aussi? Il y a beaucoup à dire sur la place des filles et des garçons dans les contes. Bref, que disent ces histoires aux enfants et aux ados de 2020 et à leurs parents? Nous démarrons cette semaine par une sombre affaire de chevillettes, de bobinettes et de longues dents pour mieux te manger, mon enfant. Le petit chaperon rouge, pardi. Une histoire aussi célèbre que mal connue et mal comprise. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc. Dorothée Barba sur France Inter.
J'accueille deux invités, les deux marraines, les deux bonnes fées de cette nouvelle émission. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la maison de Solène à Paris, un centre d'accueil pour adolescents et adolescentes. Vous avez publié de nombreux livres, parmi lesquels Aimer ses enfants ici et ailleurs, histoire transculturelle chez Odile Jacob. Et ma deuxième invitée est une grande spécialiste des contes. Bonjour Bernadette Bricou.
Une grande amoureuse. Bonjour
amoureuse
Dorothée.
Également. Bienvenue, experte en littérature orale. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris Diderot. Vous avez, vous aussi, publié de très nombreux ouvrages. On peut citer La Clé des Contes aux éditions du Seuil. J'aimerais commencer par une question toute simple et très compliquée. Une question que pourrait formuler un enfant. À quoi ça sert de raconter des histoires, Marie-Rose Moreau?
Je ne sais pas si la question que se poseraient les enfants, c'est à quoi ça sert, mais
souvent,
c'est génial.
Non. À quoi ça sert?
C'est génial. Alors, ça sert à grandir, ça sert à comprendre des énigmes. Et pour moi, pédopsychiatre, ça sert même à soigner. C'est vraiment quelque chose d'une épaisseur, d'une complexité sous l'apparence de la simplicité. Mais c'est cruel, il y a des choses terribles dedans. D'ailleurs, on se demande comment on raconte toutes ces choses aux enfants, et les enfants adorent, en redemandent. Ils aiment aussi les rituels, puisque les histoires, ça se raconte souvent, ça se répète avec des petits changements, mais ça se répète. Et ça, c'est extrêmement réconfortant de retrouver des univers, des mondes, et puis de retrouver dans des contes des peurs et des choses qu'on a à l'intérieur de soi.
On plonge tout de suite dans le plus connu, sans doute, des contes, Le Petit Chaperon Rouge. Écoutons un premier extrait, la version de Charles Perrault, s'il vous plaît.
Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, » dit le chaperon rouge, « c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons, à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte. Toc, toc. Qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit.
Lecture signée Mehdi Kerwani de la compagnie El Duende. El Duende, c'est un théâtre à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, et c'est le partenaire de Barbatruc. Vous trouverez à la page de l'émission sur franceinter.fr un lien vers leur site internet. Un duende, je le précise en espagnol, c'est un elfe. Alors commençons, s'il vous plaît, par un petit cocorico, Bernadette Bricou. C'est une histoire française, le petit chaperon rouge. Elle a fait le tour du monde. En est-on si sûr, toutefois ?
Oui, la première version connue, imprimée et publiée, est la version française de Charles Béraud que nous venons d'entendre, dont on a d'ailleurs une première version qui date de 1695. Mais le conte ne connaît pas de frontières. Il voyage bien avant la mondialisation, il voyage. Et donc, on a beaucoup de versions françaises, il est vrai, particulièrement dans le Massif central et dans les Alpes, mais on a des versions italiennes, des versions autrichiennes, des versions chinoises recueillies dans le centre de la Chine et qui présentent, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, d'étonnantes similitudes avec les versions orales. Donc, c'est un conte qui est fortement attesté en France et on en est très heureux. La version de Perrault est une version admirable, mais on va être amené à parler du conte dans ce monde aussi.
Il y a un chapitre sémantique qui m'interpelle beaucoup, moi, Marie-Rose Moreau. Beaucoup de mots mystérieux dans cette histoire. On a déjà entendu la fameuse chevillette et la bobinette. Ça n'est pas si grave de ne pas tout comprendre.
Alors, non, on devine en fait, et je pense que les enfants
enfin, on
devinent.
On devine, la chevillette, franchement.
Ah, on comprend en tous les cas qu'on va rentrer. Mais Bernadette, qui est une spécialiste, disait que c'est sans doute un conte français, qui ensuite a voyagé dans le monde. Moi, je dois dire que les enfants de migrants dont je m'occupe beaucoup, ils considèrent la plupart du temps que c'est un conte français.
Comme une histoire qui se passe en France.
Comme une histoire qui se passe en France. Mais, par exemple, quand on va de la mère à la grand-mère, et qu'effectivement, c'est tout un univers, il y a la forêt, puis après cette porte-là avec cette chevillette, et moi, enfin, c'est quand même une porte qui... Il y a quelque chose... il faut faire des choses pour ouvrir cette porte et rentrer. Eh bien, c'est souvent aussi utilisé, en tout cas raconté comme les enfants... par les enfants de migrants comme une métaphore du voyage. C'est-à-dire, on va du monde de la mère à celui de la grand-mère, avec des allers-retours. Et ce qui fait, par exemple, que nous, on l'utilise lorsque les enfants sont... Justement, n'arrivent pas à passer facilement d'un monde à l'autre. Eh bien, pour nous, c'est... On dit à l'enfant, choisis un conte que tu connais ou dont tu as entendu le nom. Et on va faire avec ça. On avait fait une étude, c'est à 60-70% les enfants choisissent le petit chaperon rouge. Parce que c'est vraiment quelque chose qui raconte sans doute le passage d'un monde à l'autre, mais aussi du monde de la mère à celui de la grand-mère.
Bernadette Bricou.
Aller de la maison de la mère à la maison de la grand-mère, c'est aller de la maison où je suis née pour aller vers la maison où ma mère est née. Alors, je parle évidemment sous le contrôle de Marie-Rose Moreau, mais ça intéresse à la fois, bien sûr, l'ethnologie, ça intéresse aussi la psychanalyse, parce qu'au fond, la petite fille qui va de la maison de la mère à la maison de sa grand-mère, et c'est un parcours féminin, puisqu'il n'y a dans cette famille que trois générations de femmes.
Où sont les hommes ?
Où sont les hommes ? On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Les ogres.
Mais en tout cas, pour cette petite fille, aller de la maison de la mère à la maison de sa grand-mère, c'est véritablement opérer une remontée vers l'origine. La maison de la grand-mère, elle se trouve par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Et le moulin, dans les sociétés traditionnelles, c'est vraiment le lieu de la sexualité joyeuse. On envoie son bonnet par-dessus les moulins. Savez-vous ce qu'il faut faire si vous ne voulez pas avoir d'enfants, disait-on dans des sociétés qui ne connaissaient pas encore la pilule et la contraception. il faut faire comme le meunier, il faut savoir décharger ses sacs avant la porte du moulin. Donc aller de la maison de la mère, avec le four où se fabriquent les enfants au lieu de la gestation, vers la maison de la grand-mère, qui est le lieu de la procréation, qu'on espère joyeuse, c'est vraiment opérer une remontée vers cette scène primitive sur laquelle...
C'est un récit d'initiation, Marie-Rose.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est sans doute pour ça que c'est un grand conte. C'est parce que il y a... C'est toutes les initiations. Alors évidemment, celle du passage de petite fille à jeune fille. Donc la question de la sexualité, elle est évidente. Mais je pense que c'est vraiment toutes les initiations, y compris quelque chose qui est le lien à l'altérité. Cet ogre, c'est ce le loup. Chasseur. Il y a le loup et le chasseur quand même. Ils sont importants ces deux-là.
Pourquoi le loup d'ailleurs serait pu tomber sur n'importe quel autre animal qui fait peur? C'est pas culturel la peur du loup?
C'est, en tous les cas, pour les enfants qui vont grandir ici, même s'ils viennent d'ailleurs, c'est une des figures de la peur. Parce que
un personnage de cauchemar, s'il en est.
Oui, un personnage. Et puis, il y a la couleur noire qui, dans les représentations sociales, et c'est d'ailleurs un problème, c'est même une question de discrimination, mais le noir et le blanc, le contraste, est un objet de crainte. Quoi. Et puis, au fond aussi, cette petite, elle va se battre, elle va résister. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la féminité.
Ne racontez pas la fin, on ne l'a pas encore fait, évidemment, gros suspense. Mais on poursuit dans un instant cette promenade dangereuse en forêt avec Bernadette Bricout et Marie-Rose Moreau.
Dorothée Barba sur France Inter. Barbatruc.
C'est reste juste dans ma tête, ou toi aussi, c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est belle. J'y ai pensé en boucle, je te veux. Je me le cachais sans doute, je te veux. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes. Parfois, je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais. Je vais te le cacher sans doute, tu me plais. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. J'aimerais peut-être juste que tu me regardes. J'ai peur d'être à deux.
Que tu me regardes, c'était Angèle sur France Inter.
Barbatruc.
Quand le petit chaperon rouge était à la maison avec la fausse grand-mère alors que c'était le loup, j'aimais bien ce moment, même si ça faisait un petit peu peur quand j'étais jeune.
La pédopsychiatre Marie-Rose Moreau et Bernadette Bricout, grande spécialiste des contes, sont mes deux invités pour ce premier épisode de Barbatruc, une émission qui raconte des histoires. La petite fille aimait bien, à l'époque, quand elle était jeune, elle aimait bien avoir peur, Marie-Rose Moreau. C'était assez frappant ce que vous disiez tout à l'heure, la grande majorité des enfants que vous suivez en consultation, quand il s'agit de choisir un conte, choisissent le petit chaperon rouge. Est-ce pour la peur, avant tout ?
Alors, dans cette étude, effectivement, c'était des enfants de migrants. Donc, c'était une catégorie d'enfants. Mais je crois que, de toute façon, il est très utilisé par les enfants et très connu des enfants. Bien sûr, la peur, d'ailleurs, la petite fille, elle l'identifie bien. Elle dit, j'avais un peu peur, mais j'aimais bien. Moi, je crois que c'est pas seulement pour la peur, parce que La peur, elle est quasiment dans tous les contes, hein. Même si là, vraiment, c'est une peur de dévoration quand même, hein. On mange. Mais donc, c'est une peur quand même assez profonde. Mais je pense que c'est aussi pour les capacités de transformation. Dans ce conte, on va d'un endroit à l'autre, d'un monde à l'autre, on le disait tout à l'heure.
On s'égare en chemin.
On s'égare en chemin, on batifole. Hein, y a quand même cette notion-là de se promener. Puis, qu'est-ce qui va se passer ? Y a la notion un peu de transgression, souvent, hein, puisque dans des variantes, la petite, elle ne fait pas exactement ce qu'on lui dit. Y a toujours cette... Je pense que la question de transgression et puis d'initiation, dont on a évoqué à plusieurs reprises. Mais c'est parce qu'il y a tout ça ensemble que c'est exceptionnel.
Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. Car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Toc, toc, qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge ?» qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette chérera. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, en la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère Grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea.
La petite fille se couche dans le lit du loup. Ça n'est pas dans toutes les versions. Nouvel extrait du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. Bernadette Bricout, le titre de votre chapitre consacré à cette histoire dans votre livre, La Clé des Contes, c'est « Chaperon Rouge sans carré blanc ». Alors, il faut rappeler peut-être que le carré blanc à la télé était placé sur les programmes déconseillés aux enfants. C'est une histoire très sulfureuse en réalité.
C'est une histoire très sulfureuse. Elle est d'abord un apprentissage de la liberté. Vous évoquiez ce qui se passe dans le sous-bois où la petite fille commence à, au fond, à faire l'apprentissage de sa liberté. Et d'ailleurs, dans les versions orales, très souvent, elle réclame. Elle a envie de partir. Sa mère lui dit « Tu iras, mais quand ton habit de fer sera usé. »
Ton habit de fer ?
Ton habit de fer. Vous voyez, ça ressemble à une ceinture de chasteté ou en tout cas à une armure. Et la petite fille, la nuit, se lève et elle frotte l'habit de fer contre le mur jusqu'à ce qu'il se déchire. Donc elle a envie de partir. Et elle fait l'apprentissage de cette liberté d'abord dans la forêt, puis arrivée dans la maison, elle va découvrir un univers. Évidemment, l'histoire s'achève dans le mi-temps du lit. Vous dites qu'elle ne se couche pas auprès du loup.
Pas dans toutes les versions ?
Écoutez, dans les versions orales chinoises, elles sont parfois 3 filles à se coucher dans le lit du loup et à percevoir le corps. Mais la découverte du corps qu'on va nommer de grands bras, de grandes jambes, de grandes oreilles, ce qui rappelle d'ailleurs l'apprentissage, on parlait de l'apprentissage linguistique des parties du corps et qui s'accompagne toujours chez Perrault du « Oh, grand-mère !» Et on ne sait pas si ce « oh » est un « oh » d'admiration, d'émerveillement ou de crainte. Il y a tout ça. Il y a la découverte de l'autre jusqu'au « c'est pour te manger » qui, évidemment, fait question.
Marie-Rose Moreau, c'est une histoire de prédation.
Aujourd'hui, on le dirait sans doute comme ça.
Quand on la lit en 2020, ça fait froid dans le dos.
Mais c'est ça qui est... De toute façon, elle a toujours fait froid dans le dos.
Ouais.
Mais on redécouvre des choses qui vont choquer les adultes. Parce que justement, oui, je crois qu'on pourrait dire vraiment de maîtrise aussi, hein, puisque le loup, chaque fois que la petite lui dit quelque chose, il le réinterprète.
Il la piège
pour la garder dans son emprise d'une certaine façon. Et puis, bon, à la fin, il la mange.
La petite fille, elle fait tout pour sa grand-mère.
Quand ton grand-père et ta grand-mère, ils étaient vieux et qu'ils ne pouvaient plus faire beaucoup de choses à l'époque, ils demandaient à leurs petits-enfants de les aider. Et là, elle lui demande de rapporter un pot de beurre et une galette. En fait, ce livre, justement, il veut apprendre ça. Puisqu'elle ne l'écoute pas et du coup, elle se fait manger par le loup. Sauf qu'il y a le chasseur qui vient après.
C'est sa leçon du jour.
Voilà, nouvel écho contemporain à cette très vieille histoire, Bernadette Bricou. Ses enfants, interrogés cette semaine au micro de Juliette Proutot, nous disent qu'il s'agit d'aider les grands-parents. C'est une histoire de solidarité entre les générations.
C'est une histoire de solidarité entre les générations, mais c'est aussi une histoire qui fait question, parce que quand même, cette mère envoie la petite fille toute seule dans le bois pour porter une galette et un pot de beurre à une grand-mère qui ne les a pas demandé. On m'a dit qu'elle était malade et elle ne la met pas en garde contre le danger.
Elle la livre au loup.
La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, dit Perrault. La grand-mère se laisse manger sans résistance. La petite fille donne au loup toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse se rendre à la maison de la grand-mère. Et cette complicité des femmes qui semble, enfin je dis complicité, c'est peut-être cette connivence des femmes qui semble placer la petite fille face au loup dans un jeu de louilles-tu, entends-tu, que fais-tu dans la forêt, eh bien elle a posé question. Éric Berne, psychanalyste lié à l'analyse transactionnelle, disait au fond, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un complot des femmes dont le loup serait par contre-coup la victime ? Grand méchant loup, méfiez-vous des petits chaperons rouges qui se promènent seuls dans les bois, parce que le chasseur n'est pas loin.
Il y a de la sororité dans cette histoire, Bernadette Bricou. C'est un complot de femmes contre un loup.
C'est un complot de femmes contre un loup, mais c'est un conte d'avertissement destiné à mettre en garde où la mère ne prononce aucun avertissement. Et ça, c'est passionnant, évidemment, pour la lecture qu'on en fait, pour les lectures, car elles sont multiples.
Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas chose étrange, s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux.
Déjà, dans beaucoup de livres, les méchants, ils ont une tête pas sympathique. On est toujours sûr que c'est le méchant dans beaucoup d'histoires.
Et voilà que s'installe un débat glissant, Marie-Rose Moreau. Les loups doucereux sont les plus dangereux, nous dit à l'instant Perrault. Mais le petit garçon de 2020 répond que les méchants, ils ont des têtes de méchants.
Oui, il le dit avec conviction. Et de même que le petit garçon avant utilisait ce conte en considérant que c'était de l'histoire. C'est-à-dire que c'était à l'époque, les petits-enfants aidaient les grands-parents. Et je trouve, c'est ça l'élaboration du conte par les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont, faire de la dialectique, essayer de voir qu'est-ce qui correspond à la réalité, qu'est-ce qui est du fantasme, qu'est-ce qui est de l'avertissement. Et donc, c'est extrêmement actif. Et ces garçons le font avec détermination. Ils ont l'air sûrs, là, comme ça. C'est aussi, bien sûr, dans les contes, il y a aussi des discriminations. Et ça, c'est très fort. Hein.
Quel type de discrimination?
Par exemple, tête de méchant, juste parce que j'ai décidé qu'il avait une tête de méchant. Ou celui-là, il n'est pas de la même façon, on disait tout à l'heure, le blanc, le noir, les garçons, les filles. Il y a beaucoup d'objets de discrimination. Mais c'est... Et d'ailleurs, parfois, le conte dit attention, il faut faire attention, mais pas toujours.
Les identifier pour mieux les conjurer, finalement.
Oui, et puis pour ne pas tomber dedans, pour ne pas être répété.
Bernadette Bricot.
Oui, ce qu'il faut dire aussi, peut-être par rapport à la moralité envers qu'on vient d'entendre, c'est qu'elle a...
Encore chez Charles Perrault. Hein.
Encore chez Charles Perrault, c'est sa marque. Elle a peu à peu disparu des éditions pour la jeunesse parce qu'elle était envers, parce qu'elle n'était pas comprise, parce que c'est un texte plus savant. Et quand elle disparaît, l'héroïne qui a 14 ou 15 ans, c'est une fille inhubile, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. C'est une jeune fille en âge d'être mariée, en tout cas en âge d'intéresser les loups doucereux. Eh bien, quand la moralité envers disparaît, l'héroïne rajeunit. Chez Gustave Doré, c'est une petite fille. Chez Sarah Moon, qui a filmé, qui a proposé une très belle version filmée, photographiée dans les entrepôts de Bercy, elle a 3 ou 4 ans à peine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à assimiler la figure du loup prédateur à un loup pédophile, ce qu'il n'est pas dans la version de Perrault.
Mais il peut l'être, justement.
Il peut l'être.
La pédocriminalité offre une nouvelle grille de lecture sur cette histoire.
C'est aussi une figure possible de notre loup.
On se raconte des histoires jusqu'à 18h sur France Inter. C'est Barbatruc et voici un nouveau venu.
Dorothée Barba sur France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
C'est l'une des séquences mythiques de France Inter, à la fois collector et toujours tonique, et tournée vers l'avenir. L'as-tu lu, mon petit loup ? Bonjour Denis Chessou.
Bonjour chère Dorothée. J'étais en train de me poser la question, lorsque vous allez aborder peau d'âne et barbe bleue, mais alors qu'est-ce que ça va être ? Là, ça va être chaud,
va être
encore plus.
Hein, donc... hyper sanglant.
Oh là là.
On est ravis d'accueillir ce rendez-vous de France Inter. L'as-tu lu, mon petit loup, dans Barbatruc ? Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui, Denis ?
Alors écoutez, aujourd'hui, en fait, comme c'est la première, je me suis dit, c'est toujours l'actualité du livre pour enfants, ça c'est le principe, mais je me suis un poil adapté au thème en réhabilitant quand même l'image du loup dans les histoires.
On reconnaît bien là, Denis Chessou.
Oui, quand même, les côtés un peu naturalistes. Donc, nouvel horaire, 34e année de la Tulu, donc c'est parti.
Même, hein.
Moi aussi je suis collecteur. le grand loup et la fée rouge de Véronique Cauchy et Rebecca Galera aux éditions Cépage à partir de 4-5 ans.
Au cœur d'une grande forêt vivait un loup un peu différent. C'était un loup très fort, très grand. Mais voilà, ce loup vivait encore chez sa mère.
Il était très gentil, mais pas très vif d'esprit. Alors les autres animaux se moquaient souvent de lui.
« Marche sur deux pattes !»«
Ou encore... »«
Fais la roue avec ta queue !»
Bref, il n'avait pas vraiment d'amis. Un jour, sa maman louve lui dit
« Tu vas te rendre chez ton grand-père. Tu lui porteras une peau de mouton bien chaude et un petit pot de miel. Mais surtout, ne t'approche pas du chemin. Les hommes n'en sont jamais loin. »
Alors, à travers les bonnes odeurs du bois, oubliant ce que lui avait dit sa maman louve, il tomba nez à nez avec une petite fille encapuchonnée, toute de rouge vêtue.
« Ciel, une fée !»
Mais drôle de fée rouge. Elle ne tenait pas bien debout. Elle avait l'air de ne rien voir du tout.
« Je suis perdue, dit-elle. Peux-tu m'aider? Je dois rentrer chez ma maman. »
En un rien de temps, il trouva un mode d'emploi pour sortir la petite fée de là. Il la prend sur son dos, mais là où la fée doit aller, c'est au village. Et là-bas, personne ne voudra de lui, pensa le loup en s'arrêtant net.
Sommes-nous déjà arrivés sans qu'il a fait ?
Ben non, tu le vois bien, s'étonna le grand loup.
Ben justement, je ne vois rien, dit-elle d'une toute petite voix.
La petite fée aussi était différente. Le grand loup aurait bien aimé l'aider, mais au village, il ne pouvait pas y aller, à cause de son pelage.
Mais je comprends, dit la fée. Moi aussi, on me rejette souvent. À leurs yeux, il faudrait être tous comme eux.
La fée plongea dans ses pensées, puis un sourire illumina son visage.
Puisque tous les deux, on n'a pas beaucoup d'amis, on n'a qu'à faire amis pour la vie.
Alors le grand loup lui trouva un bâton pour qu'elle puisse se guider. Il la ramena sur le chemin du village où elle retrouva sa maman. Et depuis, chaque soir, vous verrez une grande ombre noire et une jolie tache rouge jouer à l'orée du bois. Alors c'est un bel album graphique, hein, en noir et blanc. Une version, vous l'avez compris, revisitée de notre petit Chaperon Rouge, hein, pour parler aux enfants de différence, de tolérance et d'amitié face au handicap, avec cette petite qui est aveugle. Et un loup qui a le bon rôle, qui n'attaquera jamais un humain dans la vraie vie, eh bien c'est rare. Le Grand Loup et la Fée Rouge de Véronique Cauchy et Rebecca Galera aux éditions Cépage, et pour les 5-6 ans.
Et un deuxième album, Denis, « Tout le monde compte » de Christine Roskift, édition Casterman, à partir de 4-5 ans.
N'importe quel calcul nécessite une unité.
Une personne dans son lit, elle compte ses battements de cœur et se demande combien d'autres regardent les étoiles à ce moment précis.
Si on lui additionne deux personnes, c'est égal à un podium.
Trois personnes sur un podium. Deux d'entre elles trouvent ça super d'être arrivées parmi les trois meilleures.
En ajoutant trois personnes, certains endroits peuvent commencer à devenir étroits.
Six personnes dans un ascenseur. L'une d'elles a peur de rater quelque chose, deux autres se sentent seules.
En revanche, il faut quasi doubler pour pouvoir former une équipe.
11 personnes d'une équipe de foot. 10 d'entre elles aiment ce sport. Une a peur d'aller à l'école.
L'envie de tout comptabiliser finit par devenir contagieuse.
18 personnes dans une bibliothèque. L'une d'elles se demande combien d'histoires s'y trouvent au total. Deux trouvent bien plus que des livres.
Et encore plus grand,
200 personnes sur une plage. L'une d'entre elles a lu qu'il existe autant d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Deux sont paniquées car elles ne retrouvent pas leurs enfants.
Quand on décide d'agir, on se rend vite compte que plus on est nombreux à dire la même chose, et bien plus notre voix porte loin.
400 personnes dans une manifestation. Une aimerait apprendre à lire, une aimerait bien avoir un télescope, une aimerait trouver un meilleur ami. Toutes souhaitent un monde meilleur.
Et puis on peut même compter jusqu'à presque l'infini, même si ça donne le vertige.
7,5 milliards de personnes sur la même planète. Chacun possède sa propre histoire, chacun compte, et l'une d'entre elles, c'est toi.
Alors, Tout le monde compte est un album dont on ne compte justement plus le nombre de relectures, hein, tant chacune d'elles permet d'enrichir la précédente. C'est intensément ludique, aux allures de jeux de piste, et le texte invite à l'observation de ce livre grand format, où les illustrations alors fourmillent d'individus hauts en couleur que l'on retrouve dissimulés au fil du livre. La dernière page du livre se referme sur un joli rappel.
Chaque être humain a de la valeur et a sa place dans l'immensité parfois écrasante de l'univers.
Mieux encore, chacun et chacune a une voix et peut l'utiliser pour répandre le bien et espérer un monde meilleur. Tout le monde compte de Christine Roskift aux éditions Casterman à partir de 4-5 ans. Merci Xavier Pestugia pour sa réalisation. À Lucie Cosmala, Eric Oswald, The Voice et Denis Chessou, vous souhaite de belles lectures, vous comprise Dorothée.
Merci beaucoup Denis Chessou. Vous retrouvez L'as-tu lu mon petit loup en podcast et en réécoute sur le site de France Inter. Tout juste sortis de l'enfance, tenez, ils viennent de fêter leurs 20 ans. Voici Phoenix sur Inter.
Truc, Dorothée Barba.
Extrait de la bande originale du prochain film de Sofia Coppola qui est attendu à l'automne, c'était Phoenix Identical.
Dorothée Barba sur France Inter, Barbatruc.
Nous parlons du Petit Chaperon Rouge pour cette première avec Bernadette Bricout et Marie-Rose Moreau qui sont mes invitées, les deux marraines de Barbatruc. Alors parmi les nombreuses versions du Petit Chaperon Rouge, n'oublions pas celle de Joël Pommerat, auteur et metteur en scène de théâtre. Son adaptation du Petit Chaperon Rouge a été mise en musique par l'Orchestre National de France sur des quatuors de Schubert. Un concert est prévu d'ailleurs le 19 septembre à la Maison de la Radio à Paris. Concert malheureusement déjà complet mais qui me donne l'occasion vraiment de vous conseiller le site maisondelaradio.fr pour plonger dans la programmation jeunesse qui est absolument réjouissante. De nombreux concerts pour enfants, des plus petits aux adolescents.
Elle a désobéi à sa maman et du coup, ça lui a porté des problèmes.
Quand on va se promener, on fait gaffe.
Grégoire, c'est toi le pire.
Tu n'écoutes pas toujours maman.
Tu n'écoutes pas toujours maman, nous disent ces enfants au micro de Juliette Proutot. Les a interrogés cette semaine, c'est bien la lecture en 2020 de cette histoire qui nous intéresse, Marie-Rose Moreau. Désobéir, c'est un mot qui pèse des tonnes.
Oui, et les enfants, effectivement, vous avez raison d'insister, c'est aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire cette question de l'autorité aujourd'hui est assez différente de celle d'hier. Eh bien, elle reste au cœur. Effectivement, moi, je crois que l'idée qu'on prend des risques, mais on prend des risques pour s'émanciper. Mais d'une certaine façon, on s'oppose. Et donc, il y a cette notion qui est très forte. Et comment on joue avec ça? On sent bien que le petit garçon et la petite fille
Il y a un désaccord.
Oui, il y a un désaccord. Ils ne sont pas tout à fait
sur la même ligne de conduite.
Sur la même ligne de conduite. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on dit, il y a pourquoi on le fait. Et sans doute que la question pour les filles de désobéir, dans ce conte-là, est particulièrement importante. C'est-à-dire, c'est vraiment les filles là, qui transgressent. Et qui transgresse la parole de la mère. C'est pas l'autorité du père dont on parle. Hein. En revanche, il y a du vin, il y a du plaisir, il y a de la sexualité, tout ça apparaît bien. Donc c'est vraiment du côté des petites filles.
Vous diriez que c'est une histoire qui parle différemment aux petites filles et aux petits garçons d'aujourd'hui ?
Oui, je crois, en tout cas dans les témoignages qu'on a entendu dans l'émission et dans ce que moi je vois en consultation, je trouve que c'est très genré.
C'est un message de prudence pour les petites filles.
Oui,
c'est un peu désespérant à ce titre-là ou pas?
Oui, hein. De ce point de vue-là, c'est-à-dire c'est l'éternel féminin objet de convoitise.
Et oui, s'il t'arrive quelque chose, tu l'auras bien cherché.
Tu l'auras cherché, ma belle.
Bernadette Bricout.
D'abord, heureusement que les versions orales vont nous donner à entendre autre chose, c'est-à-dire comment trouver en soi-même les moyens de sa propre sauvegarde. Comment arriver à repousser les limites, y compris les limites de cette interdiction formulée par la mère. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'en fait, ce que vous évoquez, c'est-à-dire non pas la mise au pas, mais l'insistance sur la désobéissance, elle est présente dans la version des Grimm. Ce qui me semble très important, c'est que la mère, dans la version de Perrault, elle ne formule pas d'interdiction, dans les versions orales non plus, et donc au fond, la transgression, elle est beaucoup plus diffuse. C'est comment trouver, quel est l'espace de liberté que je peux maîtriser, et comment arriver à grandir en sortant des maisons où on m'a enfermée.
Il y a toujours cette idée, Marie-Rose Moreau, que l'extérieur est dangereux. Comment ne pas penser au confinement ?
Alors ça c'est vraiment une lecture, la dernière lecture.
Ultra contemporaine.
Mais oui, en tous les cas, il y a l'idée à la fois que l'extérieur est dangereux, mais aussi que c'est excitant. Il y a l'excitation. Alors c'est pour ça que je trouve que le confinement, bon, il n'y a pas tellement d'excitation. Les ados l'ont parfois fait comme ça, ils ont transgressé.
Il y avait une forme de pédagogie de la peur peut-être pendant le confinement.
Mais il y avait plus une pédagogie de la peur, ce qui est un peu différent. C'est l'extérieur est dangereux, point. Alors que là, elle batifole, elle fait des choses, elle est toute jolie, elle est habillée avec des beaux habits. Et donc il y a quelque chose de plus joyeux quand même de ce point de vue-là.
Bernadette Bricout.
Oui, la version des Grimm réintroduit une espérance. La petite fille et la grand-mère vont sortir du ventre du loup, et il y a des enfants pour lesquels le dénouement de Perrault est un dénouement sombre et un dénouement qui peut être véritablement traumatisant. Chez Henri Pourrat, la grand-mère qui sort en clignant des yeux et en secouant les oreilles, vous voyez, elle est déjà un peu loup elle-même, parce qu'on ne voit pas beaucoup de grand-mères qui secouent les oreilles, elle dira « comme il faisait noir là-dedans, n'y voyait la couleur du temps ». Donc c'est quand même l'histoire d'une libération aussi chez les Grimm que cette revenue au monde.
Sortir du ventre d'un loup, voilà qui m'a toujours glacée à titre personnel. La maltraitance animale n'est pas du tout un sujet dans cette histoire. On met des gros cailloux dans le ventre du loup, on le jette au fond de la rivière.
Et c'est pour ça que Denis Chessoux, tout à l'heure, voulait réhabiliter le loup. De ce point de vue-là, c'est comme si les animaux et les humains ne faisaient pas partie du même monde.
On n'est pas sur la même planète.
Non, on n'est pas sur cette
version contemporaine pour la jeunesse, où le loup n'est pas du tout, on ne va pas l'amener à lui ouvrir le ventre parce qu'on ne veut pas précisément de cette maltraitance. On va le prendre par les pieds, il va dégurgiter en quelque sorte la grand-mère et la petite fille, et ensuite le chasseur lui dira « Est-ce que c'est bien là? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Cette pauvre enfant ne t'avait rien fait ?» Et le loup va se retirer dans les forêts où il va méditer son aventure et il deviendra végétarien.
Mais voilà, laissons-le méditer, s'il vous plaît. Soit dit en passant, on sort du ventre d'un loup bien tranquillement. Le réalisme n'est pas un sujet, Marie-Rose Moreau.
Non, surtout pas. Mais c'est justement c'est cette multiplicité des plans, ça fait rire justement. Puisque les enfants, peut-être qu'au début, ça dépend de l'âge, mais rapidement, ils comprennent que c'est pas possible. L'articulation entre réel et imaginaire, c'est un ressort de l'humour. Mais je pense que cette question d'où on est aussi et d'où on sort est importante. Et puis, est-ce que c'est définitif? Il y a cette notion, est-ce que la mort, parce que c'est la mort quand même, ils sont mangés.
Je le fais manger, mais ça n'a rien de définitif.
C'est pas définitif,
ça n'est
pas
pour toujours.
France Inter.
Barbatruc.
Oh, I guess you
tube des Temptations qui fut énormément repris ici par Monsieur Otis Redding. C'était My Girl sur France Inter. Nous parlons du petit chaperon rouge dans Barbatruc cette semaine. Et on va écouter un dernier extrait de cette histoire, une autre version que vous nous avez conseillée, Bernadette Bricout, toujours lue par Mehdi Kerouani, version orale, conte de la mère Grand.
C'était une femme qui avait fait du pain. Elle dit à sa fille: tu vas porter une époigne toute chaude et une bouteille de lait à ta grand. Voilà la petite fille partie. À la croisée des deux chemins, elle rencontra le bzou qui lui dit: où vas-tu? Je porte une époigne toute chaude et une bouteille de lait à ma grand. Quel chemin prends-tu? Dit le bzou. Celui des aiguilles ou celui des épingles? Celui des aiguilles, dit la petite fille. Eh bien moi, je prends celui des épingles. La petite fille s'amusa à ramasser des aiguilles et le bzou arriva chez la mère Grand, la tua, mit sa viande dans l'arche et une bouteille de sang sur la bassie. La petite fille arriva, frappa à la porte. « Pousse la porte, dit le bzou. Elle est barrée avec une paille mouillée. « Bonjour, ma Grand. Je vous apporte une époigne toute chaude et une bouteille de lait. Mets-les dans l'arche, mon enfant. Prends de la viande qui est dedans et une bouteille de vin qui est sur la bassie. » Suivant qu'elle mangeait, il y avait une petite chatte qui disait « Pue, salope, qui mange la chair, qui boit le sang de sa grand. Déshabille-toi, mon enfant, dit le bzou, et viens te coucher vers moi. Où faut-il mettre mon tablier? Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. Et pour tous les habits, le corset, la robe, le cotillon, les chausses? Elle lui demandait « Où les mettre ?» Et le loup répondait « Jette-les au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Quand elle fut couchée, la petite fille dit « Oh, ma grand, que vous êtes poilouse !»« C'est pour mieux me réchauffer, mon enfant. » « Oh, ma grand, ces grands ongles que vous avez !»« C'est pour mieux me gratter, mon enfant. » « Oh, ma grand, ces grandes épaules que vous avez !»« C'est pour mieux porter mon fagot de bois, mon enfant. » « Oh, ma grand, ces grandes oreilles que vous avez, c'est pour mieux entendre, mon enfant. Oh, ma grand, ces grands trous de nez que vous avez, c'est pour mieux priser mon tabac, mon enfant. Oh, ma grand, cette grande bouche que vous avez, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Oh, ma grand, que j'ai envie d'aller dehors. Fais au lit, mon enfant. Oh non, ma grand, je veux aller dehors. Bon, mais pas pour longtemps. » Le bzou lui attacha un fil de laine aux pieds et la laissa aller. Quand la petite fut dehors, elle fixa le bout du fil à un prunier de la cour. Le bzou s'impatientait et disait « Tu fais donc des cordes? Tu fais donc des cordes ?» Quand il se rendit compte que personne ne lui répondait, il se jeta à bas du lit et vit que la petite était sauvée. Il la poursuivit, mais il arriva à sa maison juste au moment où elle entrait.
Oreilles sensibles s'abstenir, hein. C'était donc une version orale des contes de la mère Grand, Bernadette Bricout. C'est absolument atroce. La petite fille mange sa grand-mère.
La petite fille mange sa grand-mère, mais je dirais volontiers, comme Marie-Rose Moreau, pour l'avoir expérimenté, que c'est une version qui est souvent perçue comme atroce par les adultes.
Voilà.
Les enfants, eux, sont souvent dans quelque chose qui relève du jeu. Et je me souviens de ce père de famille me disant « Ma petite fille est allée écouter votre conférence, nous étions dans le sud de l'Italie, elle n'y a rien compris, elle m'a dit que c'était la petite fille qui mangeait sa grand-mère. » Et elle paraissait très contente. Alors, elle n'a rien compris, vous voyez, j'ai dit non, c'est bien l'histoire. Je crois qu'après cela, ils ne m'ont plus réinvité. Ils ont censuré les versions. C'est une version qu'il faut resituer dans le contexte des sociétés traditionnelles. Il est vrai que la petite fille, dans toutes les versions orales, de la France à la Chine, mange la chair et boit le sang de sa grand-mère sous des formes diverses. En fait, ce que nous dit le conte là, c'est qu'une génération chasse l'autre. Il y a une très belle réplique de l'enfant à qui le loup a demandé « Veux-tu prendre le chemin des aiguilles ou celui des épingles ? Et la petite fille répond, je veux prendre le chemin des aiguilles afin d'en ramasser pour ma mère grand qui ne voit plus clair. Une femme qui ne voit plus clair, dans les sociétés traditionnelles, c'est une femme ménopausée. C'est une femme qui ne voit plus ses règles. Revoilà le rouge de notre âge-pron, le rouge.
Peut-être que c'est le seul point commun, finalement, entre toutes les versions, et elles sont très nombreuses dans cette histoire. C'est la couleur rouge, Marie-Rose Moreau. Qu'est-ce qu'on en fait de cette couleur rouge ?
Alors, évidemment, je crois que c'est extrêmement important, la couleur rouge. D'ailleurs, parfois, lorsque les enfants commencent à dessiner le conte, ils font une tache rouge, quoi. Ils commencent par le rouge. C'est-à-dire vraiment le rouge. Le rouge, alors le rouge, on vient de parler du sang, bien sûr. Le rouge, la sexualité, le rouge, l'excitation, enfin vraiment presque la rage, la colère,
la chaleur,
quelque chose de l'ordre d'une beauté, enfin quelque chose qui s'impose, la pulsion. Donc vraiment le rouge est un des éléments essentiels, et quand je vois les enfants changer énormément de paramètres, mais j'ai jamais vu un enfant ne pas la dessiner en rouge, quoi. Il la dessine toujours en rouge, alors que il change le début, la fin, la couleur de peau, les yeux, mais le rouge, je pense que le rouge est essentiel.
La maman, elle aurait dû accompagner le petit chaperon rouge pour la protéger du loup.
Le voilà, le fin mot de l'histoire, Marie-Rose Moreau. C'est une histoire de mère indigne.
Oui, j'ai déjà entendu effectivement parfois, pourquoi fait-on prendre des risques au petit chaperon rouge ? Encore une fois, c'est pas des interprétations des petites filles, ça. Vraiment, les petites filles, la plupart du temps, elles sont contentes d'avoir pris un risque, d'avoir réussi quelque chose, de s'être émancipées. Mais oui, bien sûr, ça peut rentrer dans la catégorie manque de protection des parents.
Dans cette catégorie, merci beaucoup. Je voudrais recommander le très beau livre que j'ai entre les mains de Philippe Lechermeyer et Bérangère de la Porte. C'est un petit chaperon rouge à déplier chez Gallimard. À chaque page, on ouvre en grand un poster et on se plonge dans cette magnifique histoire. Les dessins sont pleins de malice, ils sont foisonnants, mais comptent à déplier chez Gallimard Jeunesse. Cette émission a été préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Juliette Proutot a tendu son micro aux enfants. Lecture, Mehdi Kirwani du théâtre Eldouen à Ivry-sur-Seine, Stéphane Boja à la technique. Les rituels sont-ils importants à tout âge, Marie-Rose Moreau ?
Ah oui, à tout âge. En revanche, ils sont chez les petits, par exemple, ou chez les adolescents, c'est des rituels qui sont un peu de nature différente, mais ils sont super importants pour anticiper.
Alors, je vais installer un rite dans cette émission. Voici une question que je poserai à toutes celles et à tous ceux qui passeront nous voir. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. On commence avec vous, Bernadette Bricout.
Alors, sans hésiter, l'odeur de mon enfance, c'est une odeur qui est à la fois liée à ma naissance africaine, car je suis née à Bamako, au Mali, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, où la pluie est toujours perçue comme une bénédiction. L'odeur de l'enfance, pour moi, c'est la pluie sur le jardin, ou même simplement la pluie sur la terre sèche. C'est les parfums que la pluie fait ressurgir. Et je dois dire que c'est pas seulement l'odeur de mon enfance. Je vis aujourd'hui la pluie, y compris sur Paris, quelle qu'en soit la forme, comme une bénédiction. J'attends la pluie, toujours, comme une promesse.
Et vous, Marie-Rose Moreau, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors, moi, c'est l'odeur de l'anis, en fait. C'est une saveur aussi, hein. Mais c'est l'anis verte, c'est ces petits grains d'anis que ma mère mettait dans des gâteaux espagnols de Salamanque, qui s'appellent les peronillas. Je suis espagnole, moi, je suis née à Salamanque. Et donc, dans mon enfance ardennaise, ma maman faisait ses gâteaux. Et alors, l'odeur de cet anis verte qui chauffait avec l'huile, mais cette odeur dans la cuisine, c'est pour moi une sorte de réconfort absolu.
De l'anis et l'odeur de la pluie pour un très joli cocktail. Merci beaucoup, mesdames. Impossible de citer tous vos livres, j'en pioche quelques-uns pour chacune. Devenir adulte, chance et difficulté de Marie-Rose Moreau. Moreau chez Armand Collin, La clé des contes de Bernadette Bricout au Seuil, toutes les références sur le site de France Inter. La semaine prochaine, nous célébrons la rentrée des classes avec Alceste, Geoffroy, Eudes, Agnan, avec Nicolas surtout. Les prénoms de ses copains sont quand même un sujet. Hein. Le petit Nicolas de Sampé et Goscinny au menu de la deuxième émission, ce sera dimanche prochain. Dans un instant, L'œil du tigre avec Philippe Collin. Bonne journée mesdames et à bientôt sur Inter.
À bientôt.